Reggae prend le pouvoir. Peace and Love, votre émission au cœur de l'actualité du reggae. Vivez des concerts live inédits, réécoutez et découvrez des tubes. Tous les mercredis, juste après le flash de 15h, retrouvez Ghislain Koulibaly pour une bande danse de Good Vibrations. Peace and Love.
Yeah, hear me skip. The badness of dance all will have to stop. Some of them are say that them are bad man. Some of them are say that
them are down.
The other race of them are say a gun man. The other race of them ball of them are not.
Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Peace and Love. Chaque 11 mai marque la commémoration du décès de Bob Marley. Aujourd'hui, nous irons au-delà de l'hommage pour nous intéresser au contexte historique, culturel et sociologique dans lequel l'artiste a baigné.
Il y a une tradition en Jamaïque, c'est que les hommes ne sont pas fidèles. Donc, quand on est marié à un homme comme ça, qui était le cas de Rita Marley, la vie ne devait pas être facile tous les jours. Surtout que Bob était extrêmement séduisant, qui plaisait beaucoup aux femmes, et qui ne se privait pas de consommer ça. Alors, le résultat, ça a été que quand il s'est exilé en Angleterre, à la suite d'une tentative d'assassinat en 1976, il est parti vivre à Londres, où il a connu le succès international. Et Rita Marley, sa femme, était choriste dans son groupe, elle chantait avec lui. Pourtant, il a emménagé avec la Miss Monde 1976, Cindy Breakspear, qui était le grand amour de sa vie, et avec qui il a fini ses jours. Mais ça ne lui a pas empêché de continuer à avoir des relations avec différentes femmes, et avoir... À ce jour, on estime qu'il a eu 13 enfants quand même. Tous n'étaient pas les enfants de Rita Marley. Rita en a eu 3 avec lui.
Peace and Love, vivant de paix et d'amour.
Bruno Blum, journaliste écrivain, réalisateur, spécialiste de la musique jamaïcaine, avec qui nous évoquerons des axes principaux de la vie de Marley. La mémoire du peuple noir déporté en Jamaïque, sa vie dans le ghetto de Trenchtown, ses relations avec les femmes et son positionnement face au pouvoir politique. Un pan de la déportation des esclaves dans les Caraïbes et principalement en Jamaïque sera également mis en lumière.
Do you remember the days of slavery?
Burning Spear, l'un des dignitaires du reggae, encore en vie avec le titre Slavery Days, qui revient sur la mémoire de l'esclavage, cette mémoire encore un traumatisme dans les esprits.
Sélection reggae. Vivant de paix et d'amour.
The Abishians, trio vocal fondé en 1968, revenant également sur l'histoire des Noirs déportés. Et pour ce groupe, il est mieux de prendre la direction de Zion pour vivre en paix. Quant à nous, prenons à présent la direction de la Jamaïque et de Trench Town, le berceau du reggae.
Kingston 12, y'all. In Kingston 12. Don't want you for that answer. Oh no, don't want you for that answer. You want from what I am, but you can't come what I am. Cause I'm grooving and I'm moving. Whoa, 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 I say one good thing when it is you feel no pain. One good thing about music when it is you feel no pain. So hit me with music, hit me with music now. Hit me with music, brutalize me with music. Your strength don't rock, strength don't rock, strength don't rock, strength don't rock, strength don't rock.
C'est la version live du titre « Trenchtown Rock » de Bob Marley qui nous permet de recevoir notre invité du jour, Bruno Blum.
L'invité.
Bonjour Bruno Blum.
Bonjour les amis, ravi de vous parler.
Très heureux de vous avoir au téléphone également. Vous êtes l'auteur du livre « Bob Marley, le reggae et les rastas ». Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ?
Alors moi je me suis installé à Londres dans les années 70 quand j'étais adolescent. Et je vivais dans un quartier jamaïcain. Donc je me suis intéressé à la musique de mon quartier, au reggae, au dub. Et petit à petit, de fil en aiguille, je suis devenu journaliste et spécialiste de la musique jamaïcaine. Et donc Bob Marley a été une des personnes qui ont bien sûr beaucoup compté dans ma vie. J'ai écrit une biographie sur lui. J'ai traduit plusieurs livres biographiques, notamment « So Much Things to Say » de Roger Stephens.
Oui.
Et la vie de Bob Marley a plus beaucoup de secrets pour moi.
On aimerait véritablement avoir beaucoup d'anecdotes durant les recherches que vous avez eu à effectuer en Jamaïque, les rencontres que vous avez aussi à faire. Au-delà du reggae, votre livre nous reconnecte à l'histoire du peuple noir. Vous retracez le parcours de ces enfants d'Afrique déportés en Jamaïque. Est-ce un devoir de mémoire ou une démarche pédagogique ?
Bah, les deux, bien sûr. Ouais. Ce qui est important, il me semble... Là, je viens de publier un livre que j'ai mis 12 ans à écrire, qui s'appelle « Les musiques des Caraïbes » et qui décrit les musiques... La naissance des enregistrements aux Caraïbes au milieu du XXe siècle, donc avant le reggae, les prémices du ska, tout ça, et toutes les musiques qui sont des musiques mélangées, des musiques créoles, des musiques des Caraïbes, qui sont extrêmement importantes et extrêmement influentes, beaucoup plus influentes, je pense, que les musiques même de l'Afrique,
Oui. Et,
ou même de l'Amérique, puisque les musiques américaines ont été énormément influencées par les Caraïbes. Et donc, tout ça, c'est des cultures qui sont vraiment très importantes, puisqu'elles ont marqué le monde entier. Je citerai un exemple, c'est la rumba congolaise,
qui a
fait danser toute l'Afrique pendant une bonne partie du XXe siècle. Oui. Et ben, c'est un dérivé d'une musique cubaine, par exemple. Le reggae, on voit bien aujourd'hui, est très populaire dans toute l'Afrique. Oui. Toutes ces musiques, le rap est venu de Jamaïque. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas comme ça. Donc, il faut témoigner de tout ça. Et rappeler que l'importance que ces mélanges de différentes populations européennes, africaines, amérindiennes et même asiatiques ont donné des musiques qui ne ressemblent à rien d'autre et qui sont complètement originales. Et Bob Marley, bien sûr, a été le grand fer de lance de ce mouvement caribéen. Donc, bien sûr, tout le monde s'intéresse à lui encore aujourd'hui.
Oui. Voilà, et parmi cette communauté noire qui s'est retrouvée sur les Caraïbes et autres, on avait des personnages que vous avez cités, tels que Kodjo, par exemple, ce personnage noir avec un fort caractère qui se battait pour ses droits, et le reggae qui est une musique justement qui épouse ce genre d'action. Le lien était vraiment bien trouvé.
Alors, vous avez parlé de Kodjo, c'est ça ? Alors, vous voulez que je vous parle de Kodjo ? Alors, Bon, on va expliquer un truc à nos auditeurs.
Ouais.
C'est que Kodjo est un chef marron, c'est ça ?
Mm-hmm. Nègre marron, oui.
Alors, qu'est-ce que c'est que les marrons ? Les marrons étaient des esclaves évadés, pour certains qui avaient été libérés quand les Anglais ont conquis la Jamaïque au XVIIe siècle. Les Espagnols en fuite ont libéré leurs esclaves. Et il y a eu des communautés d'esclaves qui se sont organisées dans les montagnes jamaïcaines, très à l'écart des villes, pour que les Anglais ne viennent pas les embêter. Et ils ont donc pu conserver une culture, des mélanges de cultures africaines, très particulières, notamment des tambours, dont il existe peu de traces, mais il y a un album qui existe avec tous les tambours. On reconnaît des tambours bantous, mais aussi akan, aussi yoruba.
Pour comprendre la Jamaïque, il faut partir vers Akompong. Akompong, le nom d'une ville du Ghana, en plein milieu de la Jamaïque, sur les hauts plateaux. C'est là qu'habitent les marrons. Qu'est-ce que c'est, les marrons ? C'est des esclaves qui se sont enfuis quand ils ont été amenés en Jamaïque. Très tôt, ils se sont enfuis. Ils ont mené une guerre coriace contre les Anglais. En 1738, les Anglais leur ont accordé leur indépendance. Ils ont gardé cette indépendance depuis.
Et moi, je suis allé dans le village de Akompong, qui est le nom d'une ville du Ghana, à l'origine, et j'ai rencontré les marrons au fin fond de la jungle jamaïcaine, il y a quelques années maintenant, et je leur ai demandé de me chanter des musiques. On était là avec une équipe de télévision, et je leur ai demandé de me chanter des chansons africaines. Alors, je leur ai demandé, est-ce que vous avez des traces de cultures africaines dans votre musique? Ils m'ont dit non, nous pas du tout, on fait juste du Bob Marley, on connaît rien à l'Afrique. Ils voulaient pas me parler de ça. Et j'ai insisté parce qu'ils ont une tradition du secret qui aujourd'hui a quasiment disparu parce qu'ils se rendent compte que le problème n'est pas que leur culture soit divulguée alors qu'elle devrait être secrète pour garder sa force. Aujourd'hui, ils se rendent compte que leur culture disparaît complètement et qu'il faut au contraire la transmettre. Et ce que j'ai participé à faire avec le film qu'on a fait, qui s'appelle Get Up, Stand Up, l'histoire du reggae, qui a été diffusé sur Canal+, il y a déjà 25 ans. Et donc, j'ai insisté, et puis au bout d'un moment, après qu'ils aient fait une cérémonie d'accueil avec du rhum, et des danses, et des tambours, avec des tambours carrés, les gumbés, qui sont les tambours des marrons, qui sont les tambours carrés, comme ça, magnifiques, il y a un des anciens qui était là qui a dit « Bon d'accord, tu veux de l'Afrique, on va t'en chanter. » Et il s'est mis à chanter au milieu comme ça de la place du village. Et il s'est mis à hurler un truc dans une langue africaine que je ne connais pas. Et dès qu'il a commencé à chanter, tous les marrons présents se sont mis à chanter avec lui. Ils sont arrêtés de faire ce qu'ils faisaient. Et ils sont venus le rejoindre et ils ont formé comme une chorale comme ça. Ça, c'était un moment incroyable.
Ouais.
Parce que le caméraman voulait rentrer, il voulait pas filmer. Je lui ai dit, tu te dépêches de filmer ça. Et on a pu filmer le chant de Kodjo, le chant des marrons, parce que ce chant, et je finis par apprendre, était le chant que les marrons chantaient pour prévenir les autres marrons que l'armée anglaise arrivait et qu'il fallait se réunir et qu'il fallait se préparer à se battre.
Ouais.
Et c'était le chant de guerre des marrons qu'ils ont transmis depuis le XVIIe siècle, qui chante toujours ce chant-là, un peu comme une sirène d'alarme, vous voyez.
C'est ça.
Voilà, alors ça, c'était un grand moment de ma vie en Jamaïque, quand j'ai rencontré les marrons et qu'il s'est passé ça, et on a pu le mettre dans le film, voilà.
Et aujourd'hui, la communauté vit toujours, hein, vous avez dit, retranchée en Jamaïque. Alors, est-ce que cela représente une force pour la richesse culturelle en Jamaïque ?
Alors, d'une manière générale, tout ce qui peut être africain en Jamaïque, grâce au Rasta, est quelque chose qui est, on va dire, respecté maintenant. Beaucoup, les Jamaïcains ont moins ce complexe colonial, ont moins ce complexe blanc que... Parce que là-bas, la société est beaucoup organisée de manière raciale. Les Noirs veulent se marier avec des Blancs ou des Blanches. et etc., etc. On veut éclaircir la peau. Il y a quelque chose qui est très présent dans les Caraïbes comme ça. Hein. Et bon, maintenant, il y a une fierté noire qui est quand même arrivée depuis le temps. Et il se passe que ces cultures disparaissent de plus en plus. Et les Jamaïcains ne sont pas toujours prêts à essayer de les sauver. Et les cultures des marrons, alors c'est vraiment quelque chose qui disparaît. Alors, il y a deux villages marrons qui restent. C'est Apiompang, qui est à l'ouest du pays. Et à l'extrême est du pays, il y a Nani Town. Et Nani Town, c'était une femme qui était chef des marrons à Nani Town, à la grande époque des marrons, à la grande époque de la révolte des marrons. Parce qu'il y a eu une deuxième guerre contre les marrons. Ils ont encore gagné cette guerre. Et le résultat des guerres entre les Anglais et les marrons au XVIIe siècle, c'est qu'ils ont conquis, les marrons ont conquis des territoires à l'intérieur de la Jamaïque qui sont encore aujourd'hui un des territoires indépendants. Si vous allez à Kompong, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'armée, il n'y a rien de tout ça. Ce sont des territoires indépendants dans la jungle. C'est incroyable quand même.
Peace and love, vivant de paix et d'amour.
Tracer le parcours de Bob Marley, bien évidemment, avec beaucoup d'anecdotes. Et quelle est l'étape de la vie de Marley qui vous a le plus fasciné durant vos recherches?
Je trouve que l'aspect le plus extraordinaire, peut-être, de ce personnage hors du commun, c'est qu'il a réussi à faire connaître la musique dans le monde entier et à devenir le symbole qu'il est devenu. Mmh. Parce que quand on vient de là où on vient, les chances de réussir et devenir une vedette internationale sont extrêmement minces. Donc, sa force de caractère, sa force de travail, parce que c'est quelqu'un qui travaillait énormément, qui a toujours beaucoup travaillé. Tous les gens qui l'ont connu vous disaient qu'il se levait à l'aube, qu'il fumait de l'herbe, il lisait la Bible, il prenait un petit déjeuner de fruits. Hein, il mangeait quasiment pas d'animaux, Bob Marley. Et ensuite, il allait courir pendant une heure avec ses copains. Et donc, la journée n'avait pas encore commencé. Il avait déjà fait tout ça. Et le reste de la journée, il écrivait des chansons assis sur un rocher. Donc, c'était vraiment un mode de vie très strict, très sérieux. Et quand il avait fini un peu la musique, il faisait une pause. Il jouait au football. Il avait un niveau d'avant-centre international. Son meilleur ami était avant-centre de l'équipe de Jamaïque, Alan Kilcoyle. Et il jouait au foot, et puis le soir, c'était parti pour les répétitions. Il avait les meilleurs musiciens du pays, et il répétait 2 heures, 3 heures, 4 heures, sans arrêt, jusqu'au moment où il allait se coucher avec différentes femmes. Parce que bien sûr, Bob Marley, en plus de tout ça, était un grand séducteur.
Et voilà, on parlera de ce chapitre également de la vie de Bob Marley. Mais avant, revenons à sa vie d'adolescence, son parcours dans le quartier de Trenchtown, un ghetto de Kingston en Jamaïque. Et on connaît le quotidien dans les ghettos. C'est vrai que après, on a vu un artiste promoteur de paix, diffuseur du peace and love. Mais il y avait quand même ce côté ghetto là qui était en Marley. Don't make my life a prison. We come from Trenchtown. Trenchtown. Most of them come from Trenchtown.
Oui, je crois que souvent vous parlez de peace and love. Ouais. Moi, je trouve pas que les Rastas soient particulièrement peace and love. Ouais. Ce sont pas des gens violents, hein, ouais. Mais ce sont des gens extrêmement fiers, qui ont une culture, qui ont une espèce de mission comme ça. Et les Jamaïcains, d'une manière générale, sont pas spécialement cool. Hein, c'est des gens quand même qui viennent justement d'un pays très pauvre. Par contraste, moi je connais pas la Côte d'Ivoire, mais j'ai été au Cameroun. Les gens sont ancrés dans leur culture. ils ont pas de complexe avec ça. Ils sont là, ils jouent leur musique, ils sont pas dans un problème culturel particulier, même si bien sûr il y a encore des traces de la colonisation.
C'est cela.
Et il y a des blancs qui font des choses qui sont pas bien en Afrique de l'Ouest, mais il y a aussi des blancs qui font des choses très bien. Donc les Africains de l'Ouest que j'ai connus sont tout à fait capables de faire le discernement entre tout ça. Mmh. Alors qu'en Jamaïque, il y a vraiment un héritage très lourd du passé. C'est une population à 95% noire ou métisse. Donc ils ont besoin de trouver leur identité. Mmh. Et en fait, la quête des Jamaïcains, c'est de se trouver une identité. Parce qu'ils disent toujours qu'ils sont africains, mais en fait, ils ne sont pas du tout africains, ils sont jamaïcains. Et c'est bien différent, puisque la Jamaïque est le produit de certains mélanges. Moi, je ne connais pas bien la Côte d'Ivoire, mais il y a différentes langues, il y a différentes ethnies, il y a différentes cultures qui cohabitent. Mais en Jamaïque, c'est la même chose. Ce sont différentes personnes qui ont des origines très différentes. Souvent, il y a des Indiens. Quand je parle des Indiens, je parle des Indiens d'Inde. Bon, et tout ce monde-là a dû recréer une nouvelle culture qu'on appelle la culture créole. Et cette culture créole, on la retrouve dans le sud des États-Unis, on la retrouve à Trinité et Tobago, on la retrouve à Cuba. C'est pas la même chose que l'Espagne ou le Congo, vous voyez. C'est un mélange de tout ça.
Bob Marley qui a pu développer, en tout cas, on va dire, une résilience face à toutes les difficultés ou les échecs. D'où tirait-il, selon vous, toute cette force-là?
Sa force, je ne sais pas où il l'a tiré, de la rigueur et de la volonté de réussir et de se perfectionner. Ça, c'est évident, comme toute personne qui travaille beaucoup. Hein, c'était quelqu'un s'il avait du succès auprès des fans, c'est parce que c'était un grand sportif. Il était super bien foutu, il avait un corps vraiment d'athlète, mais il avait aussi un esprit qui travaillait, quoi. Hein, et donc, il lisait les journaux, il lisait des livres, il discutait, il essayait de comprendre. C'était un sage. Et plus ça a été, plus il était sage. Mais moi, ce qui me semble important de comprendre, c'est que même en partant d'un ghetto comme ça, quand on bosse, on y arrive. Ou au moins, on arrive à quelque chose. Tout le monde peut-être pas devenir comme Bob Marley, mais il est arrivé à quelque chose. Et lui, il avait un problème, c'est qu'il était blanc, puisque son père était blanc. Et donc, il avait la peau très claire. Et on va dire que, du point de vue d'un Africain, Bob Marley était un blanc. Alors, il était métisse. Et il avait quand même la peau très basanée, tout ce qu'on veut. Il avait un peu un teint, on va dire, un peu comme un arabe. Hein. Mmh. Donc, on ne peut pas dire que c'était un noir. Pourtant, il se battait pour la cause noire, parce que sa mère était noire. Mère qu'il a élevé, son grand-père était noir. Donc, il avait un phénomène de racisme dont il a souffert très jeune, parce qu'il n'était pas noir dans un pays noir et dans un quartier noir, dans un ghetto très noir. Moi, j'ai beaucoup fréquenté le quartier de Trenchtown où il a grandi. J'ai connu plein de gens qu'il a connus et ils étaient tous beaucoup plus foncés que lui. Sa mère, c'était là que j'ai connu, et avait la peau très noire. Donc il y avait ce handicap, je veux dire, qui était d'être blanc dans un pays noir, donc, ouais. Et dans un ghetto noir. Donc ça a été un élément qui a fait qu'il a été différent dès le début. Mais bien sûr, quand il arrivait en Angleterre, il n'était pas du tout considéré comme un blanc, vous voyez. Donc c'était un double tranchant, on va dire. Donc moi, je crois que la morale de l'histoire, c'est que quand on a vraiment envie de bosser, de s'en sortir, on y arrive. Et lui, ce qu'il disait, c'est quand tu n'as vraiment pas le choix, eh ben, tu y arrives.
Hein. Et est-ce qu'il y a eu des situations où Bob Marley a été violent, par exemple?
Certainement, oui. Mais je crois qu'il y a un élément que j'ai compris, moi, en vivant en Jamaïque, c'est que Bob n'était pas quelqu'un de violent, mais son entourage était souvent très violent. C'est-à-dire que, en fait, il a été un exemple pour des gens des ghettos qui, bien souvent, ont eu recours à des actes de violence ou des actes malhonnêtes pour s'en sortir. On a déjà parlé sur cette antenne de Bonnie Wailer. Wailer, c'était quelqu'un de malhonnête. Il avait des qualités, c'était un très bon musicien, un excellent chanteur, avec une voix remarquable. Mais tout le monde vous dira, c'était quelqu'un qui mentait, qui était malhonnête. Bon, je ne veux pas dire du mal de Bonnie Wailer, mais c'est la vérité. Mmh. Donc, si vous prenez cet exemple-là, vous voyez que Peter Tosh, par exemple, avec qui Bob a beaucoup chanté pendant longtemps, n'était pas quelqu'un Moi, je l'ai rencontré, Peter Tosh. Il était très, très dur. Mmh. Il avait beaucoup de ressentiment d'avoir souffert, d'avoir été la proie d'esclavage. Lui, il avait la peau très noire, etc. Et ouais. Il n'était pas quelqu'un de violent à proprement dit, mais on sent que c'était vraiment pas loin, quoi.
Ouais.
Il était prêt, il venait du ghetto, c'était un dur. Et tous ces mecs-là, c'était dur. Mmh. Aujourd'hui, Rita Marley, vous pouvez pas être Rita Marley en Jamaïque aujourd'hui sans avoir un gang derrière vous, forcément. Mmh. Tous les musiciens jamaïcains, bien souvent, trempent dans des histoires de trafic d'herbes, quand c'est pas du trafic d'armes. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, et il y a des affiliations à des gangs qui, eux, sont très violents. Et donc, Bob, moi, j'ai travaillé avec son manager, Danny Sims, mmh. qui était manager à la fin de sa vie, et qu'il avait été aussi de 1968 à 1972, Danny Sims était un gangster. C'était un gangster américain. Moi, j'ai rencontré Danny Sims. Il était toujours accompagné d'un homme armé. Et quand on allait lui parler, son garde du corps te montrait son flingue. Il ouvrait son veston comme ça et disait « Regarde, tu fais pas le con. » Voilà. Donc, Bob Marley lui-même n'était pas violent. Lui, il était un exemple de non-violence.
Ouais.
Mais forcément, dans le contexte jamaïcain et new-yorkais, il était entouré de gens violents. Et je ne veux pas balancer de noms ou quoi,
ouais.
mais parmi ces musiciens, il y a des gens qui ont fait des choses pas terribles. Et puis, il y a d'une manière générale une ambiance de violence et de malhonnêteté en Jamaïque qui est très très présente.
Donc, c'est-à-dire, par rapport à l'environnement, il y avait une attitude justement à adopter autour de soi pour...
Mais je dis, dans une situation de violence comme ça, il y avait une réalité qui était que si on voulait passer à la radio jamaïcaine, par exemple, la radio jamaïcaine ne passait que de la musique anglaise ou américaine.
Mmh.
Okay ? Donc pour passer un disque de Rocksteady en 1967 à la radio, c'était non.
Ouais.
Et je sais que son manager, son ami Skill Cole, le footballeur, est allé avec des types, menaçant à la radio, ils ont dit « tu passes le disque ». Alors moi je dis pas que Bob a été violent, mais je dis qu'il y a eu une intimidation qui a été faite auprès des DJ de la radio anglaise. Et depuis, il y a une radio reggae maintenant en Jamaïque qui s'appelle Irie FM. Mmh. Mais à l'époque, ça n'existait pas du tout. Donc si vous vouliez passer à la radio, bah, il fallait bien trouver un moyen. Donc ça c'est un exemple.
Mmh.
Et il y a plein d'autres exemples comme ça.
Oui. Bob Marley et les femmes, voilà un autre chapitre palpitant de l'artiste, de la vie de l'artiste. Alors sa femme légitime, c'est Rita Marley, et par la suite, on sait qu'il a eu de nombreux enfants avec d'autres femmes. Et bon, là, vous évoquiez cela dans son parcours, ses habitudes de sportif et tout. Mais qu'est-ce qui, justement, quelle était la perception à l'époque face à toutes ces aventures que Marley avait avec les femmes?
Il y a une tradition en Jamaïque, c'est que les hommes ne sont pas fidèles. Donc, bien souvent, les enfants sont élevés par leur mère, avec parfois de l'aide du père, mais pas toujours. Donc les femmes en Jamaïque sont très dures, parce qu'elles savent très bien que les hommes vont se barrer, qu'ils vont pas rester. Donc elles essayent d'obtenir de l'argent des hommes. Donc il y a toujours un rapport à l'argent dans les situations conjugales, dans les situations amoureuses, il y a toujours ce truc qui est très présent et qui est très pénible. En Jamaïque, tout le monde veut de l'argent, tout le temps, les gens sont pauvres, les femmes sont souvent, ont plusieurs enfants, elles sont pas le ou les pères ne sont pas là. Bon, donc, quand on est marié à un homme comme ça, qui était le cas de Rita Marley, la vie devait pas être facile tous les jours. Surtout que Bob était extrêmement séduisant, qui plaisait beaucoup aux femmes, et qui ne se privait pas de consommer ça. Alors, le résultat, ça a été que quand il s'est exilé en Angleterre, à la suite d'une tentative d'assassinat en 1976, il est parti vivre à Londres, où il a connu le succès international. Bon. Et Rita Marley, sa femme, était choriste dans son groupe. Elle chantait avec lui. Pourtant, il a emménagé avec la Miss Monde 1976, Cindy Breakspear, qui était le grand amour de sa vie, et avec qui il a fini ses jours. Mais ça ne lui a pas empêché de continuer à avoir des relations avec différentes femmes.
Oui.
Et avoir, à ce jour, on estime qu'il a eu 13 enfants quand même. Et il n'y en a pas eu, tous n'étaient pas les enfants de Rita Marley. Rita en a eu 3 avec lui. Donc je crois que ça c'est une... Alors si on veut aller dans... Moi j'ai discuté avec un Rasta martiniquais, qui est batteur de mon groupe, qui m'a expliqué que... Alors ça c'est peut-être un peu dur à entendre, mais c'est la raison pour laquelle les hommes ne sont pas fidèles en Jamaïque, c'est parce que pendant très longtemps, les esclaves, les hommes, ont été considérés comme des gens qui doivent travailler, et les femmes s'occupaient des enfants. Donc on séparait les hommes et les femmes, et on séparait les pères des enfants. Donc quand ça dure pendant 3 siècles, les hommes ont dans leur esprit cette habitude d'infidélité, vous voyez. Donc c'est un aspect culturel qu'on retrouve beaucoup aux Caraïbes, qui n'est pas bien sûr exclusif aux Noirs des Caraïbes. Hein. Il y a des hommes infidèles, il y en a partout, y compris en Afrique. Et c'est pas la meilleure chose qui soit arrivée à la Jamaïque que d'avoir cette tradition des hommes qui, dans leur esprit, n'ont pas le rôle de père. Et ça provoque des tas de problèmes sociaux. Je pense beaucoup d'injustices en Jamaïque et beaucoup de difficultés pour les enfants qui ensuite deviennent des adultes qui n'ont pas eu de père.
Mmh.
Et ça, d'un point de vue psychologique, je pense que ça a joué un grand rôle dans l'histoire de la Jamaïque.
Toutes ces aventures justement de Bob Marley n'ont pas été aussi l'objet après son décès ou de certains dossiers qui sont ressortis parce qu'il avait aussi des relations avec des femmes, des jeunes dames qui étaient très jeunes déjà à l'époque. Aujourd'hui on a vu le cas avec R. Kelly, le rapport aux femmes et tout ça, avec tous ces mouvements féministes.
Oui, enfin, on peut entendre ça. Il y a une chanson qui s'appelle Pimper's Paradise, qu'il a chanté à la fin de sa vie, et qui parle des jeunes femmes comme ça, qui se font embarquer par des macros et par des proxénètes, qui se servent d'elles pour la prostitution, etc. Il a dénoncé ça.
Oui.
Bien sûr, il y a des femmes qui vont pas trouver ça bien, qu'il a eu des relations avec plein de femmes, mais peut-être qu'elles auraient eu envie d'avoir une relation avec lui, elles aussi. Hein. Donc, On peut pas juger ça. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Bien sûr, le mouvement féministe est une chose formidable. Je soutiens les femmes. Je dis simplement que il y a une réalité derrière ça, qui est une réalité culturelle,
sociologique,
et que on ne peut pas juger des gens qui commettent des actes comme ci ou des actes comme ça.
Aborder le dernier pan, c'est le positionnement de Marley par rapport au pouvoir politique. Quel est cet héritage-là que Marley aurait laissé, justement, en termes de message aux leaders politiques?
Alors, la position politique de Bob Marley, c'est que lui disait « Je ne suis pas du côté des Blancs, je ne suis pas du côté des Noirs, je suis du côté de Dieu. Ouais. » Le mouvement Rasta est un mouvement spirituel. C'est-à-dire un mouvement d'identité, un mouvement qui est très lié aux martyrs des Africains et donc des Caribéens. Et lui n'a pas eu d'autre position que de dire on peut travailler ensemble, on peut s'unir, que qu'on soit blanc, qu'on soit noir, on va juste travailler ensemble. Il a eu des femmes blanches, des femmes noires, des femmes métisses. Il ne s'occupait pas de problèmes raciaux. Il était dans un mouvement unitaire. Il voulait que les gens s'unissent. Il a réussi à mettre les deux concurrents aux élections sur la même scène et leur faire se serrer la main pendant une chanson. Mmh. Il voulait que les gens s'unissent et fassent la paix. Donc c'était, en ce sens-là, un homme de paix qui, je pense, est tout à fait comparable à Nelson Mandela, par exemple, à Gandhi ou à des personnages comme ça. C'était quelqu'un qui prêchait la paix. Voilà, ça c'est le message de Bob Marley. C'est un message anti-racial et c'est un message anti-politique. Il s'adressait simplement aux gens d'égal à égal, d'homme à homme, d'homme à femme. Et je crois que c'est ça qu'il a voulu dire et c'est ça qu'il a transmis. Et ça s'entend très bien dans ses chansons, qui ne sont pas toujours très bien comprises par les francophones. Mm-hmm. Mais enfin, c'est ça dont il parle. C'est toujours un message d'unité et de paix.
Et voilà. Et aujourd'hui, Marley a ses enfants, la plupart de ses enfants qui ont choisi aussi le chemin de la musique. Quelle lecture faites-vous justement de l'avenir du reggae, déjà de cet héritage-là, Marley, à travers sa famille, ses enfants, ses petits-enfants aussi, même aujourd'hui. Comment vous regardez tout cela? Vous qui avez pu effectuer des recherches, être sur le terrain pour voir tout le travail qui a été fait par Marley en lui-même et aujourd'hui de voir la jeune génération continuer sur ce chemin.
Alors moi j'ai rencontré ses enfants. Mmh. J'ai rencontré Cédella, sa première fille adoptive. J'ai rencontré Steven, j'ai rencontré Ziggy Marley, j'ai rencontré d'autres enfants comme Rohan, etc. Alors comme ce sont des enfants qui finalement, quand les procès autour de son héritage se sont finalement réglés, chacun des enfants, la plupart des enfants ont reçu $1 million. Ça a été leur héritage. Or, je ne crois pas que les 13 ont reçu de l'argent. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance.
Okay.
Mais il y en a plusieurs qui ont reçu de l'argent. Et donc, Rita leur a donné ça. Ils ont dit, voilà, on vous donne $1 million chacun. Venez pas pleurer après si vous les dépensez. Comme ça, vous avez quelque chose et il y a de la justice. Elle a gardé le reste. Et elle a fait ce qu'elle a voulu avec ça. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, Rita. Mais enfin, ça, c'est à chacun d'apprécier. Mmh. La question, c'est que chacun de ses enfants, pour répondre à votre question, chacun de ses enfants a pu développer sa carrière, se payer du matériel, travailler avec des musiciens en les payant, etc. Donc, ils avaient un professionnalisme qui était, on va dire, familial, et développé leur propre carrière. Aucun n'a, à mon avis, le talent de leur père. Mm-hmm. Mais enfin, il y en a comme Junior Gong, il a quand même, Damien, chacun a pu, avec les sommes dont ils ont hérité. Moi, je suis musicien, je peux pas payer les musiciens, je peux pas acheter un studio, je peux pas faire toutes ces choses-là. Donc, quand on a ces moyens, ce genre de sommes, on peut se permettre de développer une carrière, et c'est ce qu'ils ont fait, et je les comprends, ils ont envie de jouer de la musique, c'est une très belle vie que d'être musicien. Mais enfin, tout le monde n'a pas cette chance-là. D'autres bossent beaucoup et arrivent à sortir du ghetto. Il y a plein de Jamaïcains qui n'ont pas eu cette chance-là et qui ont fait une musique peut-être plus intéressante que certains des enfants de Bob.
Merci infiniment à vous, Bruno Blum.
Mais je vous en prie, moi je suis ravi de parler de Bob Marley, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup.
Oui.
Et je dirais que moi, ce qui m'intéresse le plus dans tout ça, c'est quand même la musique, qui est fabuleuse.
Oui.
C'était un très grand musicien, et il y jouait avec des très grands musiciens, avec qui j'ai eu la chance d'enregistrer d'ailleurs pour certains. Mmh. Et réunir des grands musiciens, ça donne une grande musique. Et ça, je crois que rares sont les artistes qui sont arrivés à ce niveau-là, dans le reggae ou dans d'autres styles. Et mes amitiés à toute la Côte d'Ivoire, je vous aime beaucoup, j'espère un jour être invité là-bas pour aller jouer.
Bien sûr.
Et peut-être que vous m'aiderez à le faire. En tout cas, je serais ravi de venir chanter ou raconter des aventures de la Jamaïque là-bas. Merci encore, au revoir.
Peace and love, vivant de paix et d'amour.
Be
Merci à Bruno Blum, notre invité, auteur de plusieurs livres et documentaires dont Bob Marley, le reggae et les Rasta, les musiques des Caraïbes. Avec lui, nous avons évoqué plusieurs axes principaux de la vie de Marley, la mémoire du peuple noir déporté en Jamaïque, sa vie dans le ghetto de Trenchtown, ses relations avec les femmes et son positionnement face au pouvoir public. Peace and love, portez-vous bien, vive Bob Marley, vive le reggae.
Peace and love, vivant de paix et d'amour.